Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Calade. Au sommaire de notre édition, climat. Tout d'abord, les premiers militants climat d'action non violente COP21 comparaissent au tribunal de Bourg ce mardi 28 mai. Les 6 prévenus participaient à l'action nationale Sortons Macron. Un rappel de l'opération avec les prévenus de l'affaire dans cette édition. Puis, entretien avec François Boursier, historien, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon. Un rappel du rôle du Parlement européen, mais aussi des enjeux de demain. Et en conclusion, bienvenue en Beaujonomie, nouveau événement pour l'Inter-Beaujolais qui nous invite à un rendez-vous gustatif par la découverte des mets et vins d'exception du territoire beaujolais, joint par téléphone Dominique Piron, son président. Calade, le journal. Un nouveau monde politique émerge, selon un éditorial paru dans le journal Le Monde. À ceux qui en doutaient encore, la réponse des électeurs français dimanche 26 mai a été sans appel. Une profonde recomposition politique est à l'œuvre dans notre pays. Elle porte aussi bien sur les enjeux dominés par une triple crise identitaire, sociale et écologique, que sur les structures partisanes. Le vieux monde s'écroule. Un autre émerge, créant à chaque consultation un séisme d'intensité variable. Les élections européennes ont apporté non pas une, mais 3 surprises. La première a trait à la participation bien plus forte que prévue. En dépit d'une campagne démarrée tardivement et assez peu pédagogique, l'Europe a en définitive beaucoup intéressé les citoyens. Sur les grands sujets du moment, l'écologie, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'Union européenne apparaît comme le niveau pertinent d'intervention, qu'on approuve ou non son action. La seconde surprise est l'avance des listes pro-européennes dans un contexte de très grande défiance politique. Elle devance d'au moins 4 points celles qui remettent en cause l'Union européenne. La poussée d'Europe Écologie Les Verts n'est pas pour rien dans ce regain. Descente aux enfers des Républicains. Ce clivage-là, loin de s'atténuer depuis la présidentielle, est en passe de structurer durablement le champ politique. On savait depuis la présidentielle que le parti de François Mitterrand était mal en point. Cette fois, c'est la droite qui subit la réplique. LR a vécu dimanche une descente aux enfers. La présidente du Rassemblement national apparaît comme la gagnante du scrutin. Parce qu'elle a réussi à capitaliser sur son nom. La révolte sociale de l'hiver, marginalisant à l'autre bout de l'échiquier politique Jean-Luc Mélenchon. Au fond, une des grandes leçons de cette élection, l'avenir appartient à ceux qui ont fait ou feront l'effort de se réinventer. Les autres disparaîtront. Les premiers militants climat d'action non violente, COP21, ANV COP21, comparaissent au tribunal de Bourg-en-Bresse ce mardi 28 mai. Les 6 prévenus participaient à l'action nationale, Sortons Macron, qui consistait au décrochage du portrait officiel du président des mairies et le retenir jusqu'à une avancée significative politique sur le climat. L'opération se déroulait à la mairie de Jassan en février dernier. Un rappel avec des prévenus de l'affaire.
Anne-Sophie Trujillo-Gaucher.
Nicolas Guérini. Oui, alors l'opération Sortons Macron est une opération qui a été lancée au mois de février par ANV COP21 au niveau national et qui consiste à aller symboliquement décrocher les portraits du président de la République dans les mairies pour dénoncer l'inaction climatique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et symboliquement laisser un mur finalement dans les mairies aussi vide que sa politique en matière d'environnement et de climat. Donc ça a eu lieu dans près d'une trentaine de communes en France. Aujourd'hui, on en est à 39 portraits qui ont été réquisitionnés. Et l'idée, alors on parle volontairement de réquisition parce que on ne souhaite pas conserver ces portraits. Hein, et l'idée, c'est qu'on rendra ces portraits effectivement quand le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire face au péril climatique.
Et évidemment, puisque vous êtes parti avec un bien municipal, vous êtes sous le coup, en quelque sorte, de la justice. C'est bien cela, Anne-Sophie ?
Oui, on a été convoqué en garde à vue d'abord, et puis ensuite appelé à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour le 28 mai prochain, mardi 28 mai. Il y a comme ça beaucoup de citoyens activistes pour le climat de cette opération Sortons Macron qui font l'objet d'auditions libres, de garde à vue et de convocation au tribunal puisqu'il y a plus d'une 70 personnes qui ont été en audition libre, en garde à vue et qu'il y a aujourd'hui 24 personnes qui sont appelées à comparaître devant 6 tribunaux différents. différents. Donc la première date, c'est à Bourg-en-Bresse le 28, et ensuite il y aura Strasbourg, Mulhouse, Paris, Lyon et Grenoble, jusqu'en novembre à peu près. Donc effectivement, on est appelé à comparaître souvent pour des délits de vol, avec ce que disait Nicolas, nous, un positionnement politique qui est de dire qu'il y a urgence climatique, qu'il faut se bouger et que du coup on était allé chercher le symbole là où il peut faire mal, et la répression est effectivement très forte, et c'est étonnant que le gouvernement passe autant de temps et la justice sur des histoires pareilles.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ça fait des années qu'on essaye de... On n'est pas les seuls, hein. Là, je parle au nom d'ANVCOP21, mais il y a quand même beaucoup d'autres ONG, associations qui s'investissent sur le sujet depuis de très nombreuses années. Les alertes des scientifiques, on les connaît, on va même pas revenir dessus. Le fait est qu'aujourd'hui, dans le dialogue, quand on essaye de construire quelque chose de l'ordre du dialogue, ça ne fonctionne pas, et finalement, on ne voit rien changer. On a été amené à réfléchir à des nouveaux modes d'action, effectivement, et qui sont susceptibles de nous donner finalement des tribunes médiatiques pour qu'on parle de ce sujet. Encore une fois, nous, on est véritablement convaincus que cette urgence, elle est là. Les effets du dérèglement climatique ont déjà commencé un peu partout dans le monde. Chez nous, encore pas trop, mais ailleurs de façon très, très marquée. Donc aujourd'hui, on cherche des modes d'action qui, effectivement, permettent simplement qu'on entende notre voix et qu'on entende encore un petit peu plus cette urgence. Hier, il y avait le rapport de l'IPBES qui est sorti sur la biodiversité, qui est aussi catastrophique que le rapport du GIEC qui est sorti en octobre dernier.
Sous le slogan « Emmanuel Macron décroche des objectifs de l'accord de Paris », décrochons son portrait. Depuis le 21 février, ce sont 39 portraits qui ont donc été réquisitionnés dans les mairies en réaction. 85 personnes auditionnées, 9 procès annoncés et la brigade de lutte antiterroriste mobilisée. Et les 6 prévenus de Bourg-en-Bresse risquent 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Bien déterminés à ne pas laisser les paroles sans acte et à exiger les mesures radicales et ambitieuses qui s'imposent pour rester sous la barre de plus d'1,5 degré Celsius de réchauffement global, les militants climat ont annoncé poursuivre leur action non violente. Une tribune signée par plus de 80 personnalités et publiée le jeudi 23 mai appelait à la réquisition de 125 portraits, soit autant de jours qu'il faut à la France pour dépasser son empreinte écologique dans l'année d'ici au G7 qui se tiendra à Biarritz au mois d'août. Entretien avec François Boursier tout de suite, historien, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon. Un rappel du rôle du Parlement européen, mais aussi des enjeux de demain avec celui-ci.
Il n'y a jamais eu autant de pouvoir qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que sur 40 ans, le Parlement n'a pas cessé de gagner des pouvoirs. Pouvoir législatif, c'est lui qui fait la loi. Alors, avec le Conseil des ministres, il co-signe ou co-dirige, mais aucun texte ne peut entrer en vigueur dans l'Union européenne s'il n'a pas obtenu la majorité au Parlement européen. Deuxième pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. C'est-à-dire que le budget... le Parlement, à la différence du Parlement français, le Parlement européen ne vote pas les ressources... Parce que les ressources, c'est les chefs d'État et du gouvernement qui en fixent l'enveloppe. Par contre, c'est lui qui vote les dépenses. Et aucune dépense ne peut être engagée dans l'Union européenne sans que le Parlement européen ait donné son aval, ait donné son pouvoir. Donc pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle, qui est aussi très important. C'est-à-dire que, là encore, le président de la Commission doit obtenir une majorité au Parlement européen pour exercer son mandat. Les commissaires européens ne peuvent devenir officiellement commissaires qu'après avoir planché devant le Parlement européen pour expliquer leur politique. Le Parlement les soumet à une rafale de questions et après ils votent. Et si ça avait été le cas pour une commissaire ukrainienne qui devait être commissaire chargée de l'industrie, qui était ancienne directrice d'un des plus gros groupes industriels de Lituanie, pas d'Ukraine, de Lituanie, elle l'avait omis de le mettre dans son CV. Les parlementaires européens lui ont dit « Madame, vous êtes en conflit d'intérêts. Vous ne pouvez pas être commissaire chargé de l'industrie en ayant été à la tête du plus grand groupe industriel de Lituanie. Donc, vous n'aurez pas la possibilité d'être commissaire. On vous remercie. » Elle a été obligée de partir. Et la Lituanie et l'Italie avaient été dans le même cas contrainte de choisir un autre commissaire. Donc il y a un pouvoir de contrôle qui est extrêmement important. Puis le dernier pouvoir, qui est plus modeste mais qui n'est pas inintéressant, c'est le pouvoir de pétition, c'est-à-dire que le Parlement européen recueille les pétitions des citoyennes et des citoyens. Et ces pétitions, elles sont recevables ou elles ne le sont pas, en fonction des critères de compétence ou pas de l'Union européenne. Et ensuite, ces pétitions, elles remontent au niveau du Conseil européen et au niveau de la Commission.
Alors, les grands enjeux, effectivement, de cette élection 2019 européenne.
Et donc là, le premier enjeu qui va se faire jour, c'est de voir quelle majorité va émerger de ce nouveau Parlement, parce qu'on sait que cette fois, il n'y aura pas de majorité possible par une simple alliance des libéraux conservateurs et des sociaux-démocrates. Ils vont être contraints de s'associer à une troisième force. Et parmi les troisièmes forces, il y a soit les écologistes, soit il y aura l'AELDE, où La République En Marche, normalement, devrait placer ses députés. Mais c'est un véritable enjeu. Après, les autres enjeux, c'est les enjeux politiques classiques de la vie et des enjeux de l'Union européenne autour du climat, autour de la politique migratoire, en sachant que le Parlement européen est déjà au travail sur ces terrains-là depuis longtemps, depuis toujours, et de manière très forte.
C'était François Boursier, historien, professeur émérite à l'Université catholique de Lyon. Bienvenue en Beaujonomie, les 8 et 9 juin prochains, festival œnobistronique en Beaujolais, gustatif par la découverte des mets et vins d'exception du territoire Beaujolais. Nous sommes en compagnie de Dominique Piron, président d'Interbeaujolais, et il nous présente ce tout nouveau événement de l'Interbeaujolais. Il est joint par téléphone.
Cet événement qu'on appelle Bienvenue en Beaujonomie, c'est un petit peu la traduction de la stratégie du Beaujolais. La Beaujonomie, c'est quoi? C'est un mot inventé, c'est un peu la contraction de bistronomie et Beaujolais. C'est tout ça pour dire que les vins du Beaujolais, les crus, les villages des Beaujolais sont des vins qui vont très très bien avec la cuisine de bistrot, la cuisine tendance. Cette façon de partager, les grandes tablées. Donc on a mis en place cet événement pour que le vignoble se l'approprie complètement. Donc ce jour-là, le week-end des 8 et 9 juin, ce sera la première année. Cet événement est destiné à être pérennisé, bien sûr. Et cette première année, une petite quarantaine de domaines, de châteaux accueilleront chez eux pour un repas, deux ou trois repas, accueilleront des invités qui seront payants, qui vont s'inscrire et payer par Internet, autour d'une table d'hôte de 15 à 20 personnes, où les gens découvriront leurs voisins et seront reçus par le vigneron, qui, pour cette occasion, s'associera avec un chef de ses amis ou de ses clients pour faire un repas, ce qu'on appelle un repas de Beaujonomie. Ça veut dire une grande tablée, des plats qu'on partage. Il faut imaginer la cocotte qui fume qu'on met sur la table, on partage tout ça avec des magnums de nos vins et dans une ambiance, dans toute convivialité. Des lieux complètement différents. Vous aurez des caves superbes aménagées, des salles à manger de château, des tonnelles, des lieux un peu différents. Donc il y a matière à visiter et à rencontrer. Une première série d'un bel événement.
Le samedi 8 et le dimanche 9 juin se tiendra la première édition de Bienvenue en Beaujonomie, festival œnobistronique. Une quarantaine de domaines et maisons vous ouvriront leurs portes. Sur réservation, un repas signé d'un chef et accompagné bien sûr de Beaujolais de caractère sans exception. Ne manquez pas de réserver. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu. Notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.